retour sur Radio Plus, toujours en direct et en public depuis le collège Pierre et Marie Curie de Liévin. Voilà, sous les applaudissements des élèves et de leurs accompagnants. Et donc Cécile, toujours en compagnie de Cécile Maure, donc enseignante au sein de ce collège et de plusieurs invités, notamment Serge Godouin et puis Marlène Viret qui va bientôt intervenir sur nos ondes. Cécile, tu voulais revenir avant de passer à notre invité suivante, donc sur un petit détail qu'on n'a pas eu le temps de dire avant la fin de cette heure, hein, de la première heure.
Oui, à la fin de l'intervention d'Aurore Rouflard, elle parle de Bruneau, qui est un personnage assez haut en couleur, puisqu'on a la chance d'avoir une historienne sur le plateau. C'était qui, cette Bruneau, en
c'était
fait?
C'était une princesse mérovingienne qui avait une façon de voir les choses assez particulière, puisqu'elle a en fait trucidé la moitié de sa famille.
Ah bah c'est gay tout ça.
Ah ben, c'est gay, mais enfin, sous les Mérovingiens, c'était pratique assez courante, hein. Voilà. Toujours est-il que le roi de l'époque, qui était Clotaire II, et donc qui était le grand-père de Clovis, hein, le roi des Francs, donc là je fais ma sérieuse, hein, donc a fait assassiner cette fameuse Bruneau pour la punir, parce que néanmoins il fallait le faire. Donc Bruneau aurait été traîné par les cheveux et par des chevaux pendant des kilomètres et des kilomètres, et sa trace sur la terre aurait laissé donc des empreintes qui auraient donné donc cette chaussée que l'on appelle la chaussée Bruneau, qui véritablement va de Thérouanne à Arras et qui est réellement, et là on est dans la réalité historique, une ancienne voie romaine. Voilà, là c'était l'anecdote, et on est encore passé de la légende à l'histoire.
Quand on a démarré le webdoc, on croyait que la ville durable, c'était juste une ville écolo avec plus d'arbres, de transports en commun, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que le durable, ce n'est pas que l'environnement. Pour faire une ville durable, où on a envie d'habiter, il faut aussi du travail, de la culture, du social.
Et donc c'est à vous que l'on s'adresse, Marlène Viret. Bonjour, hein. Vous êtes chargée de promotion à l'Office de tourisme Lens Liévin. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Jérémy?
Oui, ben c'est vrai que nous, hein, tout ce qui est développement durable, c'est quelque chose qu'on a également intégré. Ça fait partie, comme vous avez pu le constater, de ce territoire, et c'est ce vers quoi on veut tendre. Et c'est vrai que le tourisme, comme l'ont dit précédemment Gilles Brion et Jean-François Caron, on a envie qu'il participe aussi du renouveau de ce territoire et qu'il puisse sans doute permettre aux habitants de trouver des emplois dans ce secteur d'activité, qu'il permette aussi aux habitants d'accéder à davantage de loisirs, et donc que ça rende, comme tu le disais, la vie plus agréable sur ce territoire.
Léa a une question à poser.
Qu'est-ce que vous proposez comme parcours touristique autour de Liévin?
Alors, on propose différentes choses. Sur Liévin même, on propose des visites du quartier Saint-Amé. Mohamed, tu en parlais tout à l'heure, hein, puisque c'est donc sur cette fosse, hein, l'ancienne fosse numéro 3 de la Compagnie des Mines de Lens, qui a eu lieu hein, la catastrophe donc de 1974. Et aujourd'hui, donc dans l'église qui a été conservée, vous avez de très jolis vitraux, des vitraux contemporains d'une artiste douée qui justement évoque hein, la vie à la mine, et puis une œuvre également d'un autre artiste contemporain, Raymond Maison, qui a figé en fait la catastrophe de Liévin, et qui donc représente des personnages au plus près du carreau de fosse. Donc on a un circuit de visite sur ce thème sur Liévin. On a un autre circuit qu'on a baptisé de la mine au Louvre-Lens, qui permet en fait de montrer ce qui reste du patrimoine minier aujourd'hui sur les villes de Lens, Liévin et Lossongoël, et comment à partir de ce patrimoine que nous a légué la mine, on se tourne vers l'avenir et on trouve de nouvelles affectations aux bâtiments, aux sites. Donc voilà, donc on démarre de la gare de Lens, on va à la maison syndicale, on va à l'université faculté des sciences Jean Perrin, qui était donc les anciens grands bureaux des mines de Lens, on va sur la base 11-19, les terries jumeaux, le quartier Saint-Amé, on termine donc au Louvre-Lens, hein, qui est l'apothéose de la reconversion du bassin minier.
Donc Rémi Chimo, notre guide de la chaîne des Terri, nous avait dit qu'il y avait déjà eu des touristes japonais. Y a-t-il vraiment des gens qui viennent de loin pour visiter la région ?
Ah oui, 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 ça je peux le confirmer. Des Japonais, c'est vrai. Alors, pour plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, le Louvre, hein, c'est vrai que le Louvre, c'est aussi le renouveau du bassin minier, comme vous le disiez. Enfin, comme le disait Aurore, il a été construit sur un ancien site minier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Louvre attire beaucoup de visiteurs, dont beaucoup d'étrangers et des Japonais. On a quotidiennement hein, des Japonais ou d'autres populations qui viennent de l'Asie, qui viennent au Louvre-Lens, mais on a également un public de proximité, les Belges, hein, nos voisins belges, des Néerlandais également beaucoup. Et puis sur le territoire, on accueille aussi beaucoup de Britanniques et plus largement de pays ressortissants du Commonwealth, donc Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, qui viennent sur les traces en fait de leurs ancêtres qui sont venus combattre ici durant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale.
Mais pour en revenir aux Japonais, il y a également eu un auteur de manga, il me semble, Shichiro Kobayashi.
Oui, qui était venu avec la Louvre-Lens Vallée, tout à fait, travailler et faire une démonstration à Lens, à la maison syndicale, justement.
L'auteur de Rémi sans famille, oui. Cécile, tu me disais le dessin animé le plus triste de l'histoire, quasiment.
Ça doit être à peu près ça, oui. Et encore une fois, le plus triste de l'histoire. Et pourquoi avoir mis comme décor les terrines, mais franchement.
Parce qu'il était venu il y a 40 ans dans le bassin minier, justement, pour s'inspirer un petit peu de ses décors. Voilà.
Alors justement, on parlait d'histoire et des touristes qui venaient pour le passé historique, en particulier celui de la Grande Guerre. Léa, tu avais une question à ce sujet.
Ils viennent encore, surtout pour l'histoire. Est-ce qu'il y a encore des projets de reconversion sur le site 1119? Est-ce qu'on pourra visiter la salle des machines, la tour d'extraction par exemple?
Alors, sur la salle des machines, il y a un projet de restaurant. Donc, elle devrait être à terme réouverte au public. Alors, est-ce qu'on pourra... Elle va quand même être réaménagée, mais l'objectif, c'est qu'on puisse quand même encore voir quelques éléments de ce qu'était le bâtiment quand il servait à l'extraction du charbon.
C'est quelque chose qui leur avait justement manqué quand on avait fait la visite totale du carreau de fosse. Il s'était dit, mais où sont ces machines et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les voir?
En effet, c'est frustrant, je vous le concède, et ce sentiment, il est partagé par les touristes qu'on accueille sur le site. Vous avez la même réaction hein, que les touristes qui viennent. Il leur manque en effet cet aspect-là, de pouvoir voir les machines, de pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments. Beaucoup nous demanderaient aussi de pouvoir descendre au fond, bon, c'est la chose qui est interdite aujourd'hui. En ce qui concerne donc la tour du 19, là aussi, pour nous, c'est une réelle frustration, ce qu'on aimerait également l'ouvrir au public, mais pour des raisons de sécurité aujourd'hui, ça nous est interdit. Te dire si ce sera possible un jour, je le souhaite vivement. On a bien identifié le fait que ce serait un plus pour développer ce site et accueillir davantage de touristes, hein, puisqu'aujourd'hui on a, grâce à l'association La Chaîne des Terri, environ 25 000 personnes qui sont accueillies par eux, et on estime à peu près à 30 000 également le nombre de visiteurs complémentaires. Donc on a à peu près 60 000 visiteurs qui viennent sur le 11-19 uniquement sur la base. Sur les Terri, c'est beaucoup plus. Mais on sait qu'avec la possibilité de visiter la tour, ce serait bien davantage. Malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas capable de te dire quand ce sera possible. Mais moi-même, j'ai eu l'occasion d'y aller et c'est vrai que c'est intéressant. On a encore à l'intérieur tous les vestiges industriels, le réseau des culbuteurs. C'est impressionnant.
Il y a eu, il me semble, tout un tas de projets un peu utopiques qui ont circulé sur cette fameuse tour d'extraction. J'avais entendu parler d'un restaurant pour la salle des machines, d'un restaurant panoramique peut-être en haut de la tour. J'avais même entendu parler de tyroliennes géantes qui partiraient de la tour et qui iraient, je ne sais pas, jusqu'au Terri.
Ah oui, il y a les rêves les plus fous, je pense. Hein. Il y a de trains fantômes aussi, on a parlé. Voilà, tout est possible. Après, il faut des moyens et puis il faut sécuriser aussi le bâtiment, et ça a un coût. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, bah, voilà, le plan de financement n'est pas encore bouclé.
Donc on a vu tout à l'heure avec le photographe Philippe Fritier que, vu du ciel, on se rend compte que la couleur qui domine, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est de plus en plus le vert. Moi, j'ai mis des chaussures de randonnée dans un des reportages du webdoc pour expliquer à Gervais que maintenant, les terrils, c'est une vraie réserve naturelle. Vous organisez des randonnées, des balades nature ?
Alors, on organise des randonnées, oui. Balade nature, un peu moins. Nous, on travaille beaucoup avec des guides qui sont plus... qui ont développé une compétence davantage sur le patrimoine, l'aspect historique, social, humain, et moins sur l'aspect faunistique, floristique, là où le CPU, la chaîne des terrils sont totalement compétents. Donc, on se partage un petit peu les rôles. Et c'est vrai qu'eux vont davantage aller sur des balades nature. On organise quand même quelques randonnées, notamment plutôt sur les sites de mémoire, mais aussi en lien avec eux sur des sites miniers entre Arne et Anne, également sur le... sur la véloroute 31, donc la véloroute du bassin minier. Mais c'est vrai que c'est une offre qu'on n'a pas encore totalement développée et exploitée, puisqu'aussi il y a des acteurs aujourd'hui qui s'en occupent.
Léa.
Dans les endroits touristiques, souvent il y a des chambres d'hôtes dans des belles maisons anciennes. Ça existe chez nous ?
Oui, ça existe chez nous. Ça existe à Liévin, d'ailleurs, dans une ancienne maison d'un médecin des mines, hein, tout près donc de la mairie actuelle de Liévin, des anciens grands bureaux des mines de Liévin, où là, on a 4 superbes chambres d'hôtes. Et on a d'autres exemples, hein, comme celui-là, tout autour de Lens et Liévin. Oui, oui, on a des touristes qui viennent y séjourner.
Et en chambre d'hôte, il y en a une même, me semble-t-il, qui est vraiment axée développement durable, qui est même très écolo.
Alors, tout à fait, il y a un gîte qui s'appelle Fleur de Ciel, à Los Angoël, avec un toit végétalisé, un mur végétal à l'intérieur, un puits canadien pour le chauffage, ils mettent à disposition des vélos, enfin, et avec une facture très, très, très belle, une façade en briques. Oui, donc tout ça, c'est aussi, ça fait partie aujourd'hui du développement touristique.
Il y a un grand projet aussi dans une ancienne maison d'ingénieur dans le quartier du 12-14 de Lens, il me semble, à la frontière entre Lens et Lens-Angoël, ce lieu qui s'appelle Autre Part, avec
oui,
l'association Porte-Mine.
Oui, oui, qui aimerait en effet développer des chambres d'hôtes. C'est encore au stade de projet, mais en effet, c'est une ancienne maison d'ingénieur des mines, hein, au plus près du carreau de fosse, avec un tout début du projet avec des jardins partagés et puis des animations de temps en temps, des fêtes qui sont organisées par l'association. Et à terme, oui, l'idée d'avoir un lieu à la fois convivial, café, petite restauration et également chambre d'hôte.
Qui dit région touristique dit bien sûr spécialité locale. C'est difficile de parler sur les maroilles ou les endives, non ?
Ben non, en fait, c'est pas si difficile que ça, puisque le touriste, souvent, il a envie justement de goûter les spécialités et d'être un petit peu étonné. Et, l'objectif du tourisme, c'est aussi de rencontrer l'autre, en fait, hein, et de changer de ses habitudes, donc de goûter aussi autre chose, ça passe aussi par le palais. Donc, c'est vrai que chez nous, les saveurs sont assez fortes, je te le concède, le maroilles, les endives, mais il y a aussi des plaisir très simple. On s'en rend plus compte, nous qui habitons aujourd'hui ici, mais manger une frite à la friterie, c'est quelque chose de simple, mais exotique. Ça n'existe pas partout. Moi-même, je suis pas originaire d'ici et pour moi, ça a été et c'est toujours un plaisir d'aller à la friterie avec mon saladier et d'avoir des bonnes frites chaudes au plus près de chez soi.
À qui le dites-vous ? Alors, je crois qu'on a en ligne, on va continuer à parler cuisine. Alors, j'ose espérer qu'on a en ligne notre prochain invité qui est Jean-Claude Janson. Il doit être normalement avec nous au téléphone, si tout va bien, depuis sa boutique où il est en plein reportage, d'ailleurs, avec la chaîne Weo. Jean-Claude Janson, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors tiens, justement, on est en train de nous amener aussi des chocolats, tiens, que les élèves qui sont juste en face de nous et moi-même d'ailleurs, je vais pouvoir déguster, mais pas tout de suite puisque je suis en train de parler. Alors vous êtes maître pâtigoustier. Vous avez créé la pâtisserie Janson à Lens en 1992 et vous avez également un restaurant à Béthune. Et si on avait envie de vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez une spécificité, un truc en plus. Vous inventez des chocolats qui valorisent le territoire et l'histoire de la région. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de tous ces chocolats qui sont désormais emblématiques?
Alors, c'est vrai qu'avec ce métier que je fais, c'est assez facile justement de faire transparaître ma passion, qui est un métier déjà, c'est un métier de partage avant tout, et donc grâce à lui, j'arrive à ma passion à faire goûter un petit peu et à faire transparaître toutes ces choses symboliques, tout ce vécu du passé de notre région à travers les créations que je peux proposer.
Cécile.
Voilà.
Alors parmi les chocolats qui sont en train de passer et qui passent très très bien, je pense, dans le gosier des personnes sur le plateau, il y a Fleur de Bonheur. Qu'est-ce que ça raconte comme histoire, Fleur de Bonheur?
Alors, Fleur de Bonheur, c'est une belle histoire. Ça raconte l'histoire d'un petit galibot, d'un petit mineur qui descendait au fond, donc dans la mine, hein, dans les mines de fond, on appelait au fond. Et donc ce mineur, quand dans sa musette, sa maman lui mettait toujours un bouquet de lavande. Et donc il a toujours caché secret, il a toujours caché cette chose. Et donc dans la taille, ça s'appelait une taille, hein, des veines de charbon que l'on exploitait, ça s'appelait des tailles. Dans la taille, à chaque fois qu'on prenait le briquet, c'est le repas, on sentait cette odeur de lavande qui était magique, et tout le monde se posait la question et se demandait, mais d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, et il a jamais dit quoi que ce soit, et donc on en a fait une légende, voilà, et on a créé le chocolat Fleur de Bonheur.
Vous avez un autre chocolat, il me semble, qui s'appelle Cœur de Braise, et qui a quelque chose d'assez particulier. Les élèves de la classe ont eu l'occasion de monter sur les terrils jumeaux, et je crois que vous aussi vous y allez pour pouvoir le fabriquer, ce chocolat.
Alors, c'est vrai que je m'attache un petit peu aussi à tout ce qui peut pousser dans la région, et surtout des choses assez particulières. Alors, il faut savoir que les terrils existent, enfin, ont commencé à être créés depuis plus de 100 ans et abandonnés dans les années 65-70. Et donc depuis, il y a une fleur qui s'est installée, la nature qui a repris ses droits. Et donc on trouve aujourd'hui sur les terrils des dizaines de variétés de pommiers, de poiriers, on trouve des figuiers, on arrive à trouver de la roquette, des panais qui poussent naturellement. Et moi, je me suis particulièrement intéressé une fois à l'Achillée millefeuille. Alors l'Achillée millefeuille, c'est une plante médicinale donc qui porte son nom, hein, puisqu'elle était exploitée à l'époque, enfin elle était utilisée à l'époque par Achille Talon pendant la fameuse guerre de Troie, qui s'en servait comme plante médicinale. C'était une herbe cautérisante. Et un peu plus tard, nos ancêtres, les Gaulois, eux, faisaient la fameuse cervoise. Ils amérisaient la bière, l'ancêtre de la bière qui est la cervoise, avec cette herbe. Et j'ai trouvé une autre propriété intéressante à cette herbe, c'est que quand vous la mettez dans un produit, elle double, voire triple, la longueur en bouche des arômes de ce produit. Voilà.
Et donc c'est une plante que vous allez récolter directement sur les terrils. La période de récolte se situe à quel moment de l'année à peu près?
Alors, juste après l'été, je vais la chercher après l'été, et ensuite je la fais mariner dans du beurre de cacao, dans une matière grasse naturelle, et comme ça je peux m'en servir toute l'année. Voilà.
Donc là on est plutôt avant l'été encore. Est-ce qu'il y en a encore en boutique, du coup, des cœurs de braise, ou est-ce que la récolte de l'été précédent est terminée?
Non, j'arrive à l'exploiter toute l'année. Elle se conserve même des fois plus d'un an sans aucun problème. J'essaye d'en récolter assez suffisamment pour tenir une année, quoi. Voilà. Et la lavande que je mets dans Fleur de Bonheur, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est moi aussi qui la cultive, qui la récolte, qui la fait sécher, et évidemment naturellement, sans engrais, sans pesticides, sans rien du tout, quoi.
On est toujours dans la thématique du développement durable. Est-ce que les autres fleurs qui composent ou qui entrent dans la composition de vos chocolats fleurs de souvenir, ce sont aussi des fleurs que vous allez récolter vous-même ou que vous cultivez vous-même?
Alors, pas du tout. Le bleuet, ça non, je ne l'utilise pas. Ensuite, alors le bleuet, c'est la... il y a le coquelicot, le bleuet et le myosotis. Alors le bleuet, c'est la fleur française, hein, c'est la fleur symbolique de la nation française. Le coquelicot, c'est très très difficile à développer les arômes. J'aurais été obligé de faire carrément une distillerie pour pouvoir récupérer l'alcool de la fleur, donc c'était quasiment impossible. Et ensuite le myosotis, ça aussi c'est un petit peu compliqué pour extraire les arômes de cette fleur. Donc ce sont tout simplement des fleurs que j'ai dû me procurer chez des spécialistes qui font des parfums sur grasse, tout simplement. Mais par contre, l'idée symbolique pour fabriquer ces créations, c'était évidemment le centenaire de la guerre 14-18, où on voulait plutôt faire passer un message de paix plutôt qu'un message de désolation. C'est pour ça qu'on a fait des petites fleurs, hein, on a trouvé ça extrêmement charmant et symbolique de parler de ce passé assez désastreux, faut le dire, et qu'on voudrait oublier, mais qu'on ne peut pas par le biais de ces créations.
En tous les cas, vos chocolats plaisent beaucoup, notamment aux élèves du collège Pierre et Marie Curie de Liévin, qui en ont repris sans même demander. Jean-Claude Janson, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors peut-être avez-vous un site où on peut retrouver quelques infos sur vos produits?
Bah écoutez, on a un site, oui, maintenant tout le monde a un site. Alors je ne garantis pas que vous trouverez tous les produits que je crée et que je fabrique, mais vous en trouverez quelques-uns, quoi. Ou alors éventuellement vous tapez mon nom, Jean-Claude Janson, et peut-être vous trouverez un petit peu quelques articles de presse à gauche et à droite qui en parlent.
Voilà. Eh bien, merci à vous en tous les cas d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris quelques minutes pour justement répondre à nos questions et à faire partager un petit peu votre savoir-faire.
Ben, c'est moi qui vous remercie de votre appel et merci à tous ces enfants qui ont bien voulu servir de cobayes, parce que c'est des fois un jeu dangereux. Hein, et merci à eux et je les embrasse bien tous fort. Voilà.
Merci.
Allez, au revoir.
Au revoir. Allez, on va tout de suite passer à la suite de notre programme sur Radio Plus, toujours cette émission spéciale en direct du collège Pierre et Marie Curie de Liévin pour parler de ce web documentaire du noir au vert, et on est toujours en compagnie de Marlène Viré qui fait partie justement de l'office de tourisme de Lens-Liévin, et je mélange les feuilles, voilà, il fallait bien que ça arrive à un moment donné. En tous les cas, Cécile, voilà, allez, help.
comme on le disait avec Gilles Briand en ouverture d'émission tout à l'heure, on fête dans quelques jours maintenant les 5 ans de l'inscription UNESCO. Alors est-ce qu'on vient de parler de goûter des chocolats, est-ce que le gâteau d'anniversaire des 5 ans, ce sera un gâteau au chocolat de Jean-Claude Janson?
Alors, on n'a pas encore décidé du parfum du gâteau, mais si le chocolat est apprécié, écoutez, peut-être qu'on peut le retenir. Mais en effet, on va organiser donc le 1er juillet, samedi 1er juillet après-midi sur la base 11-19, une après-midi récréative autour des loisirs du mineur. Donc avec des ateliers jardinage où vous pourrez repartir avec votre salade ou votre pied d'artichaut. Également, on aura toute l'après-midi donc l'harmonie de Arne qui nous jouera des morceaux de musique et vous aurez la possibilité de danser sur place. On aura des épreuves sportives qu'on va appeler donc le challenge du mineur, où on aura on pourra tester le tir à la perche, le javelot, qui étaient donc des sports pratiqués par les mineurs, et d'autres choses un petit peu plus revisitées, assez drôles pour les enfants. Vous aurez la possibilité de vous faire photographier. Vous pourrez donc vous habiller en galibot, mais je pense que Mohamed t'a déjà donné. Mais si tu veux venir, tu pourras servir justement de modèle pour les autres les autres participants. Pour les femmes, donc il y aura également des tenues de CAFU, des tenues de mineurs pour les hommes. Et puis, comme vous le disiez, Cécile, donc en milieu d'après-midi, on proposera un goûter autour du gâteau d'anniversaire, donc des 5 ans de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ça fait un gros gâteau, ça.
Ça fait un très très gros gâteau. Donc on espère que vous viendrez nombreux vivre donc cet après-midi, le samedi 1er juillet, de 14h à 18h.
Est-ce qu'il y a d'autres festivités ou d'autres activités qui sont proposées dans ce cadre-là, en particulier des illuminations qui sont souvent proposées au moment de bassin minier en fête?
Alors, il y aura un son et lumière à la piscine Art déco de Bruay-la-Buissière le vendredi 30 juin. Mais cette année, on va pas revivre les feux d'artifice qu'on avait pu connaître il y a 2 ans sur les terrils. C'est pas l'optique qui a été retenue. Par contre, vous aurez également sur le site du 99 bis à Wany les rutilants, hein, qui donc cette grande fête autour des harmonies et de la musique sur cet ancien site minier. On aura également la Ducasse des Mines sur le site de Wallers-Sarambert, le son et lumière donc dans la piscine Art déco de Bruay-la-Buissière, et puis énormément de visites guidées sur d'anciens sites miniers, des visites théâtralisées, des conférences, des expositions, des ateliers. Les jardins du Louvre-Lens aussi vont s'animer tout l'été. Voilà.
Donc plein de choses à faire, à voir, à découvrir donc à l'occasion de ces 5 ans de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien, merci beaucoup en tous les cas, Marlène Viré, d'avoir participé à cette émission. Hein. Je rappelle que vous faites partie donc de l'Office de tourisme Lens-Liévin. Peut-être un dernier mot justement par rapport à l'Office de tourisme, son adresse déjà, et puis un site web si on souhaite plus d'infos justement, si on souhaite justement découvrir l'ensemble des activités aux alentours.
Oui, donc vous pouvez nous retrouver donc à Lens au 58 rue de la Gare, également au Louvre Lens puisqu'on a un point information. Et donc le site web c'est www.tourisme-lens-liévin.fr. Et voilà, je voulais vous remercier donc les enfants pour votre travail, et puis les enseignants également pour cette belle mise en valeur hein, de notre territoire.
Merci.
Merci à vous.
Merci. Et bien voilà, il est temps pour nous de se quitter. On va faire un petit tour de table. Merci tout d'abord Cécile pour donc cette initiative.
Ben merci à vous, merci à Radio Plus d'avoir permis cette émission qui était un petit peu qui s'est décidée un petit peu dans l'urgence, mais qui je pense vous aura permis pour ceux qui en doutaient encore que le bassin minier est une région formidable et qu'il faut y venir et qu'il y a plein de choses à faire. Et puis je remercie bien évidemment les élèves qui ont été très pros tout du long du travail du webdoc et qui ont bien assuré autour de la table. Bravo à eux.
Merci également donc à l'ensemble de nos invités, merci également à Serge Gaudouin d'avoir participé à notre émission.
Oui, ben moi aussi je voulais remercier tout le monde. Il a été super agréable de, en tant que médiateur numérique de Canopé Arras, d'accompagner ce projet. Une très belle réussite. Je suis encore bluffé par l'attitude des enfants aujourd'hui. Et vraiment une belle équipe qui a été dirigée par le chef de projet Cécile Mort, qu'il faut aujourd'hui mettre à l'honneur, parce qu'il y a eu un travail très très conséquent qui a été réalisé, et je crois qu'on peut l'applaudir.
Bravo Cécile. Je vous rappelle en tous les cas, on remercie également, je remercie l'ensemble du personnel du collège Pierre et Marie Curie de nous avoir accueillis dans de si bonnes conditions, et l'ensemble de son personnel. Et puis je vous rappelle que cette émission sera disponible à partir de demain en podcast sur le site de Radio Plus, le www.radioplus.fr. Très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. À bientôt, au revoir.
Au revoir.